5h-7h, Théo Manval.
Et le journal de 6h vous est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
À la une.
Eh bien justement, le coup d'envoi des soldes aujourd'hui. Sous la chaleur caniculaire, nous verrons comment se sont préparés les commerçants. Et alors que la France suffoque de chaleur, le rapport du Haut Conseil pour le Climat épingle Paris qui ne respecte pas ses objectifs climatiques. Dans ce journal également une première, UFC Que Choisir annonce le lancement d'une action de groupe contre Google. Il est question de protection des données. Enfin, le mondial de foot féminin avec les dernières qualifications hier pour les quarts. Les Pays-Bas et l'Italie ont décroché leur ticket. Tous les détails avec Jérôme Lacroix dans quelques minutes. Les consommateurs français vont-ils préférer les gros centres commerciaux climatisés aux petites boutiques situées dans les centres-villes? Les soldes démarrent aujourd'hui dans une atmosphère étouffante. 65 départements restent en alerte orange canicule. Maud Descamps est allée à la rencontre de certains commerçants parisiens. Reportage.
Dans sa petite boutique de prêt-à-porter, Chantal, en nage, accroche les dernières étiquettes sur les articles soldés. La journée s'annonce difficile.
Il fait déjà bien chaud malgré la clim, mais là on est au max, on ne peut pas faire davantage.
Avec 34 degrés annoncés aujourd'hui, cette commerçante s'attend à avoir un impact sur les heures de fréquentation de son magasin. Elle s'est donc adaptée.
La chaleur va certainement générer une baisse de fréquentation aux heures les plus chaudes de la journée, mais les clientes vont vouloir faire les soldes en se réservant les heures les plus fraîches du jour. C'est pour ça que nous, par exemple, on ouvre à 9h
au lieu de
10h à cause de la chaleur.
Chez la commerçante d'en face, il fait facilement 10 degrés de moins. Nathalie a pris les devants. Hors de question que son gros climatiseur tombe en panne. Sinon, c'est la fuite de la clientèle assurée.
On a fait une grosse révision des climatisations pour être au top. Les gens ne sont pas trop acheteurs. Dès qu'il fait trop chaud, il n'y a que deux cabines, ils ressortent vite. Donc nous, on est toujours bien équipés là-dessus, on investit.
Et pour s'assurer que leur boutique sera bien fraîche à l'arrivée des premiers clients, certains commerçants ont même prévu d'arriver bien avant l'heure d'ouverture pour faire tourner les climatiseurs.
Maud Descamps pour Europe 1 à Paris. Pour faire face à l'épisode de pollution, la circulation différenciée est instaurée dès aujourd'hui. Pour la première fois, les véhicules équipés de vignettes critères 3 n'ont pas le droit de circuler. Seuls 1 et 2 pourront rouler dans Paris, intramuros et en petite couronne. Le stationnement résidentiel gratuit est reconduit aujourd'hui. Circulation différenciée également à Lyon et Villeurbanne et à Strasbourg. Ce sera le cas dès demain.
Et alors que la France suffoque, Céline Kallmann, c'est un hasard du calendrier. Le Haut Conseil pour le climat a rendu un premier rapport dans lequel il pointe les retards de la France sur ses objectifs.
Oui, le Haut Conseil pour le climat, vous savez, cet organisme indépendant créé il y a quelques mois sur demande d'Emmanuel Macron, l'objectif affiché de la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre est loin d'être atteint. Deux secteurs posent particulièrement problème, le bâtiment et les transports, l'or d'Autriche.
Si la pollution a baissé l'an dernier, en 2018, ce n'est pas vraiment lié aux actions du gouvernement, lance un membre du Haut Conseil pour le climat, mais c'est lié à la météo, un hiver doux avec une plus faible utilisation du chauffage. Les mesures aujourd'hui en place ne suffisent pas, est-il écrit. Dans la rénovation énergétique des bâtiments, le problème, c'est qu'après les travaux, on ne vérifie pas si le logement est moins gourmand en énergie, explique Céline Guivarch, membre du Haut Conseil pour le climat.
Changer les fenêtres, ça ne suffit pas, c'est une rénovation globale qu'il s'agit de mettre en œuvre et aussi d'évaluer quel est l'effet. On n'a pas de mécanisme systématique pour, une fois que les travaux sont faits, évaluer les gains.
Et côté transport, la situation ne s'est pas améliorée en France depuis 10 ans, ajoute Corinne Lequéré, la présidente de ce groupe d'experts.
La demande augmente en transport, l'électrification est en retard et on continue à préférer la voiture individuelle. Il y a vraiment des gros blocages au niveau des transports pour justement changer la façon dont on se déplace.
Ce rapport remis au Premier ministre sera aussi transmis au Parlement. Le gouvernement a désormais 6 mois pour répondre aux différentes questions posées dans ce rapport.
D'Autriche pour Europe 1. Dans l'actualité également, la préfecture de l'Aude a pris une série de mesures après la découverte de taux d'arsenic plus élevés que la moyenne concernant moins 3 enfants. Les mesures, l'interdiction à des aires de jeu, analyse de qualité de l'air, prise en charge des tests d'urine réclamés donc par des associations d'habitants après la fermeture d'une mine d'or et d'arsenic dans la vallée de l'Orbiel. Le tribunal de commerce de Paris doit prononcer aujourd'hui la liquidation de la filiale française de l'enseigne de vêtements New Look. Pas de repreneur crédible. Résultat, 400 salariés bientôt au chômage. Depuis quelques jours, 4 magasins sur 30 sont occupés par ces employés pour réclamer un plan social décent, comme dans le magasin situé rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Karim, directeur de la boutique, a vu la situation se dégrader ces derniers mois.
Ça fait plusieurs mois, oui, qu'on n'est plus approvisionné. D'abord, ça a commencé par parcimonie. On recevait des produits qui ne correspondaient pas du tout à la saison. Par exemple, on va recevoir des chaussons Moltenay en plein été. Et on va nous demander de faire du chiffre avec ça. Donc là, on a dit que c'était inacceptable et pas possible. Bah, là, ils ont commencé à dire, bon, bah, là, on n'a plus d'argent pour payer la marchandise, donc vous allez bientôt plus en recevoir. Et puis finalement, bah, vous en recevrez plus. Et vous allez faire avec ce que vous avez. Je vais vous dire, moi, en tant que directeur, c'est moi qui ai refait les toilettes ici avec mon argent. Parce que c'était indécent et j'aurais refait la cuisine. Avec les salariés, on a repeint nous-mêmes la cuisine. J'ai aucune aide, aucune aide. Stop, il y en a marre parce que là, mon état de santé en pâtit. Et mes salariés qui pleurent parce que là, vous les voyez solides. Mais quand je les ai en entretien individuel parce qu'ils m'expliquent qu'ils sont anxieux. Là, j'ai une temps partiel qui vient d'avoir son logement. Avec le salaire qu'elle a, elle va se retrouver au chômage et elle ne pourra plus assurer son logement. Donc elle, c'est concret. En septembre, il va falloir qu'elle soit le trouve du travail, soit qu'elle lâche son appartement et qu'elle retourne chez sa mère. C'est ni plus ni moins que ça.
Karim, directeur d'un magasin New Look à Paris.
C'est une première en Europe. UFC Que Choisir annonce le lancement d'une action de groupe contre Google.
Oui, l'association de consommateurs estime que le géant du web viole le règlement européen de protection des données. L'action de groupe cible en particulier les utilisateurs d'Android, Anne-Laure Jumet.
Vous en avez fait l'expérience si vous avez un téléphone ou une tablette fonctionnant sous Android, le système d'exploitation de Google. Pour utiliser les applications, il faut absolument avoir une adresse Gmail et donc en créer une si ce n'est pas le cas. Ainsi, Google peut accéder à l'ensemble de vos données, votre géolocalisation notamment. Et ce que dénonce UFC Que Choisir, c'est que l'accord de l'utilisateur est considéré comme acquis. Des cases sont précochées et il est très difficile de les repérer, explique le président de l'association Alain Bazot.
On a fait le constat d'huissier pour démontrer qu'il fallait des heures et des heures pour accéder à toute la galaxie labyrinthique de l'univers Google et pouvoir donner au cas par cas son consentement. Je dis oui à ça, je dis non à ça, je dis oui à ça. Actuellement, ça n'est pratiquement pas possible pour les utilisateurs d'un Android.
Avec cette action de groupe, UFC Que Choisir souhaite mettre fin à ces pratiques et obtenir une indemnisation de 1000 euros par consommateur lésé. L'action de groupe doit encore être validée par la justice. La procédure, si elle aboutit, sera historique selon l'association, mais elle prendra du temps. Au moins plusieurs années.
Alors Jumet, fumer du cannabis, oui, vapoter, non. La ville de San Francisco en Californie devient la première grande ville américaine à interdire la vente de cigarettes électroniques. Alors le but, c'est de préserver les jeunes des ravages de la nicotine. Mais il faut savoir que San Francisco, on peut acheter du cannabis, c'est légal depuis janvier 2018.
Voilà, ni cannabis, ni vapotage en tout cas dans ce studio. Merci beaucoup, c'était le journal de Céline Kallmann.
Europe 1. Il est 6h07, Théo Manval.
Je sais pas, je dis ça pour moi.
Mais non. Moi aussi, non, pas de papotage.
Dans un instant, notre historien Fabrice Dalméda nous raconte pourquoi cette année la marche mondiale des fiertés, la Pride, se tient à New York, les 50 ans des émeutes de Stonewall pour les droits de la communauté gay. Il nous explique le rapport, c'est tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h09, Théo Manval.
À l'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Il fait de plus en plus chaud.
Sans surprise, une moyenne cet après-midi de 36 à 39 degrés. On atteindra les 40 degrés à Nevers, à Clermont-Ferrand, 41 même à Limoges. Il en fera 35 à Paris, 37 à Marseille, 38 à Mulhouse et 39 à Bordeaux. Côté ciel, de plus en plus de soleil pour tout le monde cet après-midi. Encore des nuages, voire quelques averses ce matin entre la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire. Nuageux aussi sur la pointe nord et les côtes basques.
Merci beaucoup, Céline Dacosta. Eva, un petit point sur les souvenirs de nos auditeurs.
Mais
ce
oui,
matin.
Parce que vous savez que Toy Story 4 sort aujourd'hui sur les écrans. Alors à cette occasion, on a souhaité savoir quel jouet vous faisait naître un petit goût de nostalgie ce matin. Eh bien, vous êtes très nombreux à nous répondre sur Twitter avec le hashtag Europe 1 comme Olivier. C'est bien son train électrique qui a bercé ses années de 5 à 15 ans. Des heures à imaginer des voyages en train en imitant les annonces sonores en gare et le bruit des locomotives. Tchou-tchou
Je fais le train.
C'est du beatbox ou c'est du train?
C'est pas un TGV.
On n'est pas certain, Merci beaucoup Céline Dacosta, merci beaucoup Eva Rock.
Europe 1, 5h, 7h, Théo Manval.
Et le vibrionnant Jérôme Lacroix est de retour dans ce studio.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Au sommaire de votre journal du Mondial ce matin, Jérôme.
Les Bleus à la recherche des failles américaines à deux jours du quart de finale France-États-Unis. Le redoutable adversaire est scruté de très près. Des Françaises à Clairefontaine, dans un cocon des conditions idéales qui leur offrent un premier avantage, vous l'entendrez. Et puis appel à toutes les voitures, Eti a disparu. Mais qui est Eti?
Bah oui.
Réponse à la fin du journal.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Mais d'abord, Théo, ces chants, cette ferveur, les supporters des Pays-Bas continuent d'enchanter ce mondial à chaque sortie de leur équipe, c'est ça. Hein. Ils chantent dans le stade, pendant le match, mais aussi plusieurs heures avant, dans les centres des villes hautes. Hier soir, c'était à Rennes. Ils y ont vu leurs joueuses se qualifier pour les quarts de finale. Victoire 2-1 face aux Japonaises. But décisif néerlandais inscrit sur pénalty dans les ultimes instants pour une faute de main nippone vraiment pas évidente. Ces néerlandaises qui retrouveront samedi en quart de finale les Italiennes, tombeuses de leur côté 2-0 des Chinoises.
Des nouvelles des Bleus à J-2 du très attendu quart de finale face aux États-Unis. Vous nous parlez ce matin, Jérôme, d'un soutien inattendu.
Il s'appelle Claire Fontaine, cet allié. Les Françaises sont de retour depuis avant-hier après-midi dans le camp de base bleu. Et alors que les Américaines sont, elles, dans un hôtel du centre de Paris avec un terrain d'entraînement à plusieurs kilomètres, les Françaises sont plutôt tout confort à Clairefontaine, des équipements performants, une salle de projection vidéo toute récente, les pelouses des stades d'entraînement parfaites avec possibilité aussi de séances de cryothérapie, ça tombe bien en canicule, un bon point pour la France, se réjouit Philippe Joly, l'un des entraîneurs adjoints.
Alors oui, c'est un avantage par rapport à une équipe qui est au centre de Paris, surtout avec la météo qu'il y a en ce moment. Oui, c'est un avantage parce qu'on est chez nous, c'est notre maison, c'est là où on a nos repères. On va pouvoir bien récupérer, on a tous les outils pour pouvoir récupérer. On prend Clairefontaine volontiers, quoi.
Et ces deux prochains jours, le staff l'assume, hein, chaleur oblige. Les séances d'entraînement seront très légères. Hier, une sortie à vélo le matin et c'est tout en termes d'activité physique. La préparation est plutôt tactique sur la base d'images vidéo.
Et visionnage notamment du dernier match des Américaines avant-hier face aux Espagnols.
Et oui, parce qu'il y a des motifs d'espoir hein, là-dedans pour les Bleus. Certes, les Américaines ont gagné cette rencontre, mais difficilement des points faibles sont identifiés. La défense centrale, la gardienne aussi. Sarah Boady, elle-même gardienne des Bleus, déterminée à trouver les failles.
Ils ne sont pas numéro un mondial par hasard. Elles ont un jeu très poussé vers l'avant où elles se projettent très très vite. On a vu une équipe espagnole qui se sont battues, qui sont bien restées en place, qui les ont mis aussi en difficulté. Je pense que le staff va bien analyser aussi ce match-là, analyser les matchs précédents et mettre en place une tactique qui va pouvoir les mettre en difficulté.
Et aujourd'hui, des Bleus en immersion avec une journée huis clos, fermée au public et aux médias. Et puis Théo, pour finir, une dernière info. Mais qui a volé Eti, la mascotte du mondial, petit poussin jaune en marinière, vous l'avez sans doute aperçu, dérobé, figurez-vous,
c'est
jeudi dernier, en pleine nuit au
Lamentable.
Parc des Princes. Cinq personnes
qui
sont parvenues à pénétrer dans un local. Ils se sont emparés d'un sac dans lequel se trouvait le costume. Une plainte a été déposée. Bon, rassurez-vous, il y a d'autres costumes disponibles et Eti sera bien présente vendredi au match des.
Ouf, c'était le journal du mondial. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix. Jérôme, l'une des fiertés de la rédaction d'Europe 1 et de fierté, il en est aussi question dans notre plongée historique du jour.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalmena.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Aujourd'hui aura donc lieu à New York la World Pride, la plus grande marche des fiertés, grand défilé mondial de la communauté LGBT. Et si New York a été choisi cette année, c'est pour rendre hommage aux émeutes de Stonewall qui ont eu lieu il y a 50 ans tout juste, hein, fin juin 1969 dans cette ville. De quoi est-ce que l'on parle exactement?
En 1969, aux États-Unis, les homosexuels étaient encore pourchassés. À New York, dans leur quartier d'élection, Greenwich Village, ils se retrouvaient le soir dans des bars, des cinémas. Or, la police ne cessait d'y faire des descentes, de procéder à des arrestations, à des tracasseries, allant parfois jusqu'à des violences physiques. Jusqu'à ce samedi, 28 juin 1969, à 1h20 du matin, quand deux inspecteurs et six policiers en uniforme entrent dans le seul bar qui accueillait volontiers des lesbiennes, des gays, des travestis noirs et portoricains, le Stonewall Inn. L'histoire allait changer.
Et que s'est-il passé?
Alors que les policiers conduisent une femme menottée à un fourgon, une foule s'assemble et commence à jeter des objets sur les agents. La pression est si forte que les policiers doivent s'enfermer dans le bar de peur d'être lynchés. Ils appellent des renforts et 400 hommes de la police anti-émeute sont envoyés. Mais déjà, l'agitation a gagné, elle durera 3 jours. Les jeunes garçons des rues, les travestis sont durement réprimés avec de nombreuses arrestations. Mais grâce à cette mobilisation, le mouvement gay entre en politique. Naissent alors les premiers journaux et associations ouvertement homosexuelles. Cela contraint les autorités à modifier leur méthode.
Et quand l'homosexualité a-t-elle finalement vraiment admise aux États-Unis ?
Il faudra une dizaine d'années encore pour que la tolérance progresse, État par État et ensuite sur le plan fédéral. En 1979, a lieu la grande marche vers Washington de 100 000 gays et lesbiens. La question de l'orientation sexuelle commence à entrer doucement dans les mœurs. Les années sida et les sorties du placard des stars hollywoodiennes dans les années 80 achèvent de structurer le mouvement LGBT et permettent des avancées législatives importantes. La discrimination s'estompe seulement au début des années 90. C'est cette mémoire douloureuse de Stonewall que commémore la World Pride cette année dans une New York désormais ouverte à toutes les orientations sexuelles.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire et la mémoire tous les matins avec vous à 6h15. À demain.
Europe 1.
Il est 6h16, Théo Manval.
Debout les copains se poursuit. Dans un instant, je reçois Marine Foulon, coordinatrice du défi Rien de Neuf pour l'association Zero Waste France. Alors que débutent aujourd'hui les soldes d'été, on a choisi de s'intéresser, nous, à ceux qui décident de ne plus rien acheter de neuf, justement, pour préserver les ressources de la planète. On en parle tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité avec vous Théo Manval.
La vigilance orange à la canicule concerne désormais 65 départements. À Paris, Lyon et Annecy, la circulation différenciée est mise en place dès aujourd'hui. Ce sera le cas demain pour Strasbourg. Et justement, la France, mauvais élève, le Haut Conseil pour le climat adresse à Paris un premier rapport cinglant. L'organisme indépendant lancé en novembre dernier estime qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la trajectoire de la France est incompatible avec ses ambitions. Et puis le Mondial Football, féminin de football. Je vais y arriver. Les Italiennes se qualifient pour les quarts de finale en éliminant les Chinoises 2-0. Elles rencontreront les Néerlandaises, vainqueuses des Japonaises de Buzyn.
Europe 1, 5h, 7h. Théo Manval.
Je ne sais pas si on dit vainqueur, vainqueuse, je ne sais pas exactement. On va dire victorieuse, ce sera plus à propos. L'actualité ce matin, c'est aussi le début des soldes. Aujourd'hui, pour 6 semaines et pour la dernière fois, puisqu'à partir de l'hiver prochain, la loi Pacte les raccourcira à 4 semaines. On a choisi, nous, aujourd'hui, de s'intéresser à ceux qui vont délibérément les boycotter, ces soldes. Bonjour Marine Foulon.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice du défi Rien de Neuf pour l'association Zero Waste France. Vous-même, vous tentez de ne rien acheter de neuf depuis 1 an et demi. Quelles sont pour vous les bonnes raisons, du coup, de résister aux soldes ?
La première, c'est la planète, parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand on achète du neuf, il y a tout un tas de matières premières qui est nécessaire pour fabriquer ces objets. Et à chaque fois qu'on achète du neuf, on recrée ce circuit de consommation de ressources. Par exemple, pour fabriquer un jean, il faut 49 kg de matières premières et 8000 litres d'eau.
8000 litres d'eau pour
énorme.
Un pantalon.
Mm-hmm.
On peut lire sur votre site avec un manteau neuf, c'est 100 kg de matières premières, un micro-ondes, 2 tonnes de matières premières. Donc voilà, ne rien acheter de neuf, c'est vraiment la manière première du coup de préserver les ressources, de faire un geste citoyen.
Oui, exactement, parce qu'il y a tout ce processus d'extraction des matières premières, puis d'assemblage, de transformation, de distribution, et ensuite seulement le consommateur peut avoir l'objet, l'utiliser, et puis ensuite il y a aussi toute la gestion de fin de vie, et pendant tout ce processus, il y a vraiment une consommation de matière qu'on ne voit pas.
Chaque logement de Français renfermerait l'équivalent de 114 euros de vêtements jamais portés, par exemple. Il y a aussi beaucoup de gaspillage.
Oui, effectivement, la première étape, quand on essaye de consommer autrement, c'est vraiment de se poser la question du besoin. Est-ce que j'ai besoin de cet objet ? À chaque fois que j'ai une intention d'achat, je me pose cette question. Et ça aide vraiment à arbitrer et à ne pas accumuler des tas et des tas d'objets, parce que je pense que n'importe qui aujourd'hui peut ouvrir son armoire ce matin et au lieu de prendre simplement le vêtement qu'on a envie de mettre, de prendre juste 5 minutes, d'observer dans son armoire. Et je suis sûre que n'importe qui peut trouver un vêtement qu'il aurait pu acheter parce que il était à 50% en vitrine.
Je me fais l'avocat du diable, Marine Foulon. Les soldes, c'est aussi une bonne nouvelle quand même pour le porte-monnaie de plein de citoyens. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens qui attendent cette période-là, justement, pour refaire un peu leur garde-robe ?
Bien sûr, c'est la raison même pour laquelle les gens participent aux soldes. Mais en fait, changer sa consommation et participer à un défi comme le défi Rien de Neuf, c'est aussi faire des économies, même certainement plus, puisque la première étape, comme je disais, c'est de renoncer à certains achats parce qu'on n'en a pas besoin, mais c'est aussi acheter d'occasion, et le marché de l'occasion la plupart du temps est moins cher, c'est aussi emprunter plutôt que posséder, acheter, c'est aussi louer plutôt qu'acheter, donc ça permet aussi réellement de faire des économies.
Donc éviter la surconsommation, effectivement. Vous avez lancé à Zero Waste France, donc en janvier 2018, il y a 1 an et demi, ce défi Rien de Neuf. Il y a aussi aujourd'hui plus de 20 000 Français qui participent à ce défi. Quel est le profil des gens qui se plongent là-dedans ?
Ben en fait, il n'y a pas vraiment de profil type, ni en termes d'âge, ni en termes de lieu de vie, parce qu'en fait, on peut le faire partout. Et il y a aussi des gens qui arrivent par différents prismes. On peut avoir envie de relever le défi pour des raisons écologiques, comme on le disait, mais aussi simplement parce qu'on veut redonner du sens à sa consommation, on veut redevenir maître de sa consommation, ou tout simplement parce qu'on veut faire des économies. Donc, il y a plein de profils et il y a plein de raisons de participer.
Mais justement, qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être de faire ça ?
Ben, moi, c'est forcément le prisme écologique.
Et ça fait un an et demi que vous le faites, ce défi ? Vous n'avez rien acheté ? Vous n'avez pas acheté un seul vêtement ?
Alors, vêtements, j'en ai acheté, mais d'occasion. Ouais. Et c'est possible aussi d'acheter du neuf, puisque l'idée, c'est quand même de questionner ses besoins. Et dans certains cas, on peut choisir d'acheter du neuf, mais ça devient un achat réfléchi. C'est quelque chose qui a été décidé. Et par exemple, moi, ce que j'ai pu acheter, c'est des livres, parce que c'est des livres qui viennent de sortir, qui ne sont pas encore dans un circuit alternatif. Mmh. Et aussi parce que je les achète dans ma petite librairie de quartier que j'ai vraiment cœur à soutenir. Donc pour moi, c'est pas un souci.
Et pas dans un grand réseau.
Exactement.
Alors justement, si on veut donner un côté pratique à ceux qui nous écoutent, vous parliez d'occasion, d'emprunter, de louer. Où est-ce qu'on se dirige pour s'équiper en produits de tous les jours, en électroménager même peut-être, pour s'habiller aussi ?
Alors, il y a différentes possibilités. Si on veut acheter d'occasion, par exemple, il y a tout ce qui va être ressourcerie, boutique Emmaüs, mais il y a aussi plein de sites en ligne. Et d'ailleurs, certains sont spécialisés sur des types de produits. Ça peut être Recyclivre pour les livres, Back Market pour tout ce qui va être ordinateur reconditionné. Voilà, il y a plein de possibilités. Et puis après, si on veut plutôt échanger avec des personnes proches de chez nous, il y a des applications. Si on a besoin simplement d'utiliser un objet, par exemple, si demain vous déménagez et que vous devez installer vos étagères plutôt que d'acheter une perceuse, vous pouvez simplement mettre un mot dans votre immeuble ou sur votre boîte aux lettres si vous habitez en maison et demander si vos voisins peuvent vous prêter une perceuse, tout simplement.
Ça, effectivement, ouais, tout le monde peut le faire. La question que je vous posais, donc il y a ce site internet de Zero Waste France où on peut peut-être trouver des adresses, des sites, etc. Mais ce qui peut rebuter peut-être ceux qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas forcément facile quand on n'est pas en ville de trouver des réseaux comme ça. Est-ce que vous avez aussi cette démarche de conseil en ligne peut-être qui peut aider nos auditeurs ?
Oui, tout à fait. Bah, sur le site du défi riendeneuf.org, vous pouvez trouver toutes les alternatives au neuf par type d'objet et par type d'alternative en fonction de ce que vous recherchez et de votre besoin. Et voilà.
Eva Rock ?
Oui, vous disiez que c'était l'écologie qui était votre premier motif de ce défi-là. Qu'est-ce qui a été le déclic chez vous, en l'occurrence ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « il faut vraiment que je me lance dans ce défi-là » ?
Mais je pense qu'il y a aussi des raisons qui sont sociales, parce que par exemple, quand on voit que sur un t-shirt qui coûte 29 euros, les travailleurs et travailleuses qui sont en tout début de chaîne de production gagnent en réalité 18 centimes. Moi, je me dis, en fait, j'ai pas du tout envie de contribuer à ça. Donc, c'est une des raisons principales pour lesquelles je suis entrée dans ce défi. Parce que, en fait, ne pas participer au solde, c'est refuser un système qui ne tient pas ni écologiquement ni socialement. Et participer au défi Rien de Neuf, c'est montrer justement qu'on résiste aussi à ça et qu'on veut que le système change.
Et je rebondis sur la question d'Eva tout à l'heure pour une dernière question. On parle de boycott des soldes ce matin. Est-ce qu'il y a aussi des soldes sur le marché de l'occasion pour gagner du pouvoir d'achat pour les personnes qui sont le plus en difficulté ?
Oui, bien sûr, ça existe. Tous les acteurs du réemploi de la seconde main ne le pratiquent pas. Et encore une fois, c'est évidemment beaucoup mieux de participer au solde sur de l'occasion. Mais il ne faut toujours pas oublier cette question du besoin pour ne pas accumuler des objets qui sont inutiles. Parce que c'est aussi ça, gaspiller des ressources, c'est avoir des objets chez soi qu'on n'utilise pas et qu'on ne remet pas en circulation, qu'on ne fait pas profiter à d'autres. Donc il faut faire attention aussi au solde de façon générale.
Est-ce que mon achat part d'un besoin ou est-ce que j'en ai eu l'idée en arrivant dans le magasin ou sur le site internet ? Merci beaucoup Marine Foulon. On rappelle que vous êtes la coordinatrice du défi Rien de Neuf pour l'association Zero Waste France. Merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.
Merci.
Europe 1, il est 6h26, Théo Manval.
Dans un instant, le journal complet de David Doucan et la météo de Céline Dacosta. Restez avec nous.
Il est 6h27, Théo Manval.
Avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan, on fait un nouveau point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Ça n'arrête pas de grimper. 65 départements sont en vigilance orange canicule.
Oui, épisode de chaleur qui franchit un nouveau palier avec toujours plus de soleil. Seuls les départements côtiers vont échapper à cette vigilance, en tout cas pour l'instant. On a un petit peu de vent près des côtes méditerranéennes et sur les Pyrénées. Un petit vent de nord-est également, région parisienne. Encore quelques nuages et des averses entre la Bretagne, le Cotentin qui débordent sur les pays de la Loire et qui là sont orageux. C'est nuageux aussi sur les côtes basques et le Nord-Pas-de-Calais, mais cet après-midi, ce sera soleil pour tout le monde.
Les températures.
Elles sont très douces, voire chaudes hein, par endroits. Déjà ce matin, 15 à Brest, c'est la plus basse, 17 à Lille, 19 à Biarritz, il en fait 21 à Perpignan, à Bordeaux, 22 à Paris en ce moment, 24 à Toulouse et 27 à Nice. Cet après-midi, ça grimpe encore, une moyenne de 36 à 39 degrés du sud de la Loire au nord-est, avec des pointes à 40 degrés ou plus du Périgord au Limousin et aux côtes du Massif central, dans les Alpes également et la vallée du Rhône. On attend 35 à Paris, 39 à Agen, 40 degrés à Clermont-Ferrand, 41 même pour Limoges. Il fera moins chaud près des côtes de la Manche, avec 23 à 26 degrés. Et ça semble se confirmer, la baisse des températures est amorcée pour samedi et dimanche.
On attend avec impatience. Merci beaucoup Céline. Dans une minute, il arrive avec tout ce qu'il faut savoir de l'actu du jour. Le journal de 6h30 avec David Doucan. Très bon réveil à tous.
Europe 1,
5h, 7h,
Théo Manval.
Vous écoutez Debout les copains, très bon réveil à tous. Après le journal de David Doucan, on retrouvera nos trois fantastiques. Michaël Darmon nous dira pour la politique comment Christian Jacob se prépare à prendre la présidence chez les Républicains. Comment faire face au pic de consommation d'électricité lié à la canicule? Ce sera la question écho d'Axel de Tarlet. Et puis enfin, Eva Rock nous parlera de cette fiction qui retrace la nuit du 13 novembre 2015 près du Bataclan. Fiction que France 2 choisit de diffuser ce soir.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Théo Manval.
Le journal vous est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Trois titres à la une.
La canicule va se renforcer et s'étendre. Plus de chaleur encore et dans davantage de régions. Problème, les établissements scolaires sont souvent vétustes et mal isolés. Presque impossible de garder les enfants au frais. Reportage dès le début de ce journal. Savez-vous ce que sont les avoirs criminels? Des villas, des jets, des immeubles confisqués aux délinquants et vendus pour renflouer les caisses de l'État. Le nombre de saisies a explosé en 2018. Et puis ce fameux tableau, Judith et Holoferne. Caravage ou pas, un acheteur anonyme n'a pas douté. Il a payé le prix fort. Diane Chenouda nous racontera tout à la fin de cette édition.
Europe 1.
Les températures vont encore grimper aujourd'hui. La chaleur va gagner les régions de l'Ouest, jusqu'ici plus ou moins épargnées. Parmi les sujets d'inquiétude, il y a les établissements scolaires, bien souvent mal isolés. À la veille du pic attendu demain et après-demain, des enseignants demandent tout simplement la fermeture des locaux, comme par exemple à l'école Ernest Renan de Vénissieux, en banlieue lyonnaise. Jean-Luc Boujon.
Ernest Renan, c'est l'école typique des années 60. 10 classes dans un grand bâtiment rectangulaire sans volets et sans isolation et une cour bétonnée avec très peu d'arbres. Noémie Kenon a installé un thermomètre dans sa classe de CM2 au deuxième étage, baignée de soleil.
33 degrés à 10h50 du matin.
Cet après-midi?
On va monter jusqu'à 35-36. Donc on travaille plus du tout l'après-midi. C'est trop chaud. C'est pas possible pour eux. Là, depuis ce matin, j'en suis à la 10e vaporisation. Ça doit être la 8e fois que je leur sers de l'eau parce qu'on n'a pas envie qu'ils fassent de malaise et qu'ils se sentent mal. Donc ouais, c'est compliqué.
Et justement, Karim, l'un de ses élèves, ne se sent pas bien du tout depuis ce matin.
Horrible. Il fait super chaud et on a mal à la tête. La maîtresse, quand on a fini notre travail, elle nous emmène dans le couloir parce que dans le couloir, il fait plus frais. Il fait trop chaud en classe.
Du coup, avec des températures qui vont encore grimper de 3 ou 4 degrés demain et vendredi, le directeur Bernard Bagadja réclame une mesure d'urgence au ministère et à l'inspection d'académie.
Nous, on a fait la demande d'une fermeture d'école exceptionnelle parce que c'est vrai que c'est pas jouable. Ici, concrètement, on est dans un cas où on peut pas fonctionner et on a des craintes pour la santé des enfants. C'est pas raisonnable.
Ce matin, il n'a toujours pas reçu de réponse à sa demande. Demande pas forcément appuyée par tous les parents, car certains n'auront pas la possibilité de trouver une solution de dernière minute pour faire garder leurs enfants durant deux jours. Vénissieux, Jean-Luc Boujon, Europe.
Attention aussi, la pollution s'installe à Paris et à Lyon. La circulation différenciée a été déclenchée. Seuls les véhicules avec vignette 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler. Ceux qui rouleraient avec une critère 3, 4 ou 5 s'exposent à une amende de 68 euros pour un véhicule léger, 135 euros pour un poids lourd. Alors, chaleur, pollution, quel impact à ce stade sur les organismes? Le directeur général de la Santé a tenu un point presse, Jérôme Salomon, vigilant mais rassurant.
Nous avons des éléments qui montrent une augmentation modérée du recours à la médecine de ville, une augmentation très modérée du recours aux urgences et aucun phénomène de saturation aux urgences en lien avec la canicule. Donc pour l'instant, ce sont des éléments rassurants, mais je tiens à rappeler que dans une canicule, l'effet sanitaire est souvent retardé de quelques jours et que cet effet sanitaire est souvent lié à la durée du phénomène. Au début, on résiste bien, une journée, deux journées. Et puis quand le phénomène dure, et c'est le cas probablement dans la façade est, on voit bien qu'il y a des villes qui vont avoir 8 jours, 9 jours de température intense, aussi bien diurne que nocturne. Donc on surveille de très près. On se félicite aussi de la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux et du fait que la plateforme nationale canicule ait reçu 2000 appels, ce qui est un bon signal. Les Français se renseignent pour savoir quels sont les bons conseils à suivre pour prévenir au maximum l'impact sanitaire de cette canicule.
Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, avec Mélanie Gomez pour Europe 1. Et puis, on le sait, qui dit canicule dit feu de forêt. En tout cas, les risques augmentent. Dans les Bouches-du-Rhône, les agents de la sécurité civile sont sur le pied de guerre. Reportage, Nathalie Chevance.
Au sommet de la montagne Sainte-Victoire, à plus de 1000 mètres d'altitude, ils sont deux à se relayer tout l'été pour surveiller les départs de feu et donner l'alerte. Deux volontaires avec leur paire de jumelles, installés sur un site très escarpé, d'où la nécessité pour le ravitaillement d'utiliser l'hélicoptère. Thierry Fruit, chef interbase de la zone sud.
Oui, là il part faire une mission de délingage de matériel au profit des pompiers du département des Bouches-du-Rhône. On va armer un guet qui va servir à la surveillance des feux de forêt.
Et pour tenir 600 kg de vivres et de matériel technique, héliporté par Didier Caillot, pilote à la sécurité civile, qui s'apprête à décoller vers ce site stratégique.
On a un champ de vision de 360 degrés et qui porte par beau temps à plusieurs centaines de kilomètres. Donc c'est un point clé, évidemment, pour l'observation, parce que ce sont les premières personnes qui vont détecter et voir la fumée s'il y a un départ de feu.
Comment vous la sentez cette saison ?
Je la sens difficile parce qu'il fait très chaud depuis plusieurs jours avec un vent très chaud. C'est tout ce qu'il faut pour que ça parte rapidement. Et la nature est complètement sèche. On est un peu sur le pied de guerre.
Les pilotes d'hélicoptères Dragon sur le qui-vive, car engagés tout l'été sur les missions feux de forêt, notamment pour guider les Canadairs sur les zones les plus difficiles. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Il a été mis en place par Emmanuel Macron lui-même, le Haut Conseil pour le climat. Eh bien, son premier rapport n'est pas tendre avec le gouvernement. Cette instance indépendante appelle la France à revoir son action, reconnaît certes des objectifs ambitieux, mais fustige des actions insuffisantes et des dispositifs trop faibles pour lutter contre le réchauffement. Leur rapport était très attendu. Les députés Éric Pouillat, LREM, et Éric Diard, LR, présentent aujourd'hui leurs conclusions sur la radicalisation dans les services publics. Il apparaît que l'éducation et la sécurité sont peu touchées. La menace est en revanche persistante dans les prisons, la santé ou les transports. Nous développerons ce sujet dans le journal de 8 heures avec un reportage à la RATP.
À suivre dans votre journal de 6h30, des villas, des jets, des immeubles confisqués aux délinquants et vendus pour renflouer les caisses de l'État. Le bilan de l'année 2018 dans un instant. À tout de suite.
Il est 6h37, Théo Manval.
La suite du journal de David Doucan. Le ministère de la Justice, David, dévoile aujourd'hui le bilan des saisies criminelles l'an passé.
Oui, il s'agit de ces biens confisqués aux délinquants, villas, immeubles, jets. Ensuite vendu aux enchères au profit des caisses de l'État. Chloé Triomphe a pu consulter en avant-première ce bilan 2018 et le nombre de saisies a explosé.
L'an dernier, trois villas d'exception avec piscine et vue imprenable sur la mer à proximité des plus belles plages de Martinique étaient vendues aux enchères. L'une d'elles, 321 mètres carrés, partait pour 900 000 euros. Elle appartenait à un escroc condamné pour une gigantesque arnaque d'investissement. L'argent de la vente, comme celui de nombreux autres immeubles, bateaux, tableaux ou meubles confisqués par décision judiciaire, puis saisis et mis en vente, est en partie reversé dans les caisses de l'État. Et cette année, selon les chiffres qui seront rendus publics tout à l'heure, l'État a encaissé près de 8 800 000 euros, soit une hausse de 60% par rapport à l'an dernier. Le nombre de confiscations a augmenté de 50%. Le nombre de biens revendus a quant à lui plus que doublé. Et si la villa de rêve ou le bateau à moteur rapporte gros, ce sont aussi souvent des biens plus modestes comme des terrains agricoles ou des maisons vétustes issues du trafic de drogue, de filières de traite d'êtres humains ou encore de la délinquance financière.
Chloé Triomphe du service Police Justice d'Europe 1. Coup d'envoi des soldes d'été pour 6 semaines jusqu'au 6 août. Enjeu particulier pour les commerçants qui ont souffert pendant les 6 mois de mobilisation des Gilets jaunes. Ils espèrent aussi que la canicule n'empêchera pas les clients de venir nombreux dans les magasins. La fameuse toile, expertisée par certains comme un caravage, Judith et Holoferne, a été vendue à un acheteur privé 2 jours avant les enchères qui étaient prévues demain soir à Toulouse. C'est effectivement, Théo, un coup de théâtre. Le collectionneur a payé le prix fort. Explication, Diane Chenouda.
L'acheteur tient à rester anonyme, mais on sait que c'est un collectionneur étranger, proche d'un grand musée, qui a acheté le fameux tableau, comme le confirme l'expert Éric Turquin, qui l'a authentifié comme un Caravage.
Le tableau va quitter le pays. Malgré tous nos efforts, j'ai pas réussi à convaincre dans mon pays. J'ai réussi à convaincre partout, mais pas en France. Je pense très franchement que notre pays a un problème avec cet artiste, qui est un artiste très excessif. Notre tableau, il n'y a pas plus baroque que notre tableau. Il n'y a pas plus excessif, pas plus violent, pas plus brutal, pas plus beau non plus pour moi.
Il y a un mystère autour de ce tableau. On ne sait pas si c'est un Caravage. Il y a quand même un doute.
Bah écoutez, il y a un doute en France, mais il n'y en a pas partout. Hein. La preuve.
Est-ce que ça veut dire que l'acheteur, lui, est persuadé que c'est un Caravage ?
Ah, je crois que pour faire une offre comme il l'a faite, je pense que c'est un signe de confiance, oui. Il nous a fait une offre tellement importante qu'on ne pouvait pas ne pas la transmettre. Ah, l'acheteur l'a payé le prix d'un Caravage, ça c'est certain.
Et le prix d'un Caravage, c'est combien ?
Eh bien, le prix d'un Caravage, c'est mon estimation.
Estimation que l'expert avait fixée entre 100 et 150 millions d'euros. Dans quelques mois après restauration, la toile ira dans un grand musée étranger, sans qu'on sache encore lequel.
Diane Chenouda du service culture d'Europe 1, c'est la fin de ce journal. Théo, vous aviez un commentaire sur ce Caravage
que je ne donnerai pas à l'antenne. Ah oui. Merci
c'est
beaucoup,
dommage.
C'était le journal de 6h30 de David Doucan. Je vais ajouter quand même un mot de sport. David, vous le savez, dans deux jours, vendredi 28 juin, l'équipe de France féminine de foot joue son quart de finale du Mondial face aux États-Unis. On vous invite à venir voir ce match sur grand écran ici à Europe 1 au studio Belmar de 20h jusqu'à 23h30. Toute l'équipe d'Europe 1 Sport sera présente dès 20h autour de Lionel Rosso jusqu'à 23h30 pour le débrief. On vous attend très nombreux. Eva Rock, vous serez de la partie ?
Oui, et puis les voleurs qui ont volé la mascotte.
Vous la rendez la mascotte.
Non, allez, on en a besoin pour vendredi.
La mascotte volée au Parc des Princes. Merci beaucoup pour vous inscrire pour venir voir le match au Studio Belmar. Ça se passe dès maintenant sur le Club Europe 1. Un coup d'œil à la météo à présent. Céline Dacosta.
Oui, non, mais je me disais que peut-être qu'il avait planqué son costume tellement il fait chaud.
Mais c'est une piste tout à fait plausible. Étudiable, tout à fait plausible.
65 départements, vigilance orange canicule. Seuls les départements côtiers échappent pour l'instant à cette vigilance. Et c'est près de la Manche que les températures seront les plus supportables, les plus agréables, 23 à 26 degrés. Ça grimpe ailleurs avec 36 à 39 degrés. Cet après-midi, 40 attendu à Clermont-Ferrand, 41 même à Limoges. Côté ciel, du soleil pour tout le monde cet après-midi. Ce matin, il reste des nuages sur le Nord-Pas-de-Calais, les côtes basques, entre la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire, avec des averses, des orages même, qui débordent sur les Pays de la Loire. Un mot sur le reste de la semaine rapidement pour vous dire que du soleil, on aura pour tout le monde, week-end compris. Demain, journée encore plus chaude, 36 à 40 degrés en moyenne. Grosse chaleur également pour vendredi, avec un petit peu de vent quand même sur la moitié nord. Et puis ça commence doucement à baisser samedi et dimanche. Ça baissera surtout sur la moitié ouest. Lundi, ce sera le retour des orages sur l'est du pays.
Allez, un peu de fraîcheur arrive. Merci beaucoup Céline Dacosta. Eva Rock.
Et oui, Toy Story 4 qui revient, enfin qui déboule sur nos écrans, le volet 4. C'est dans les salles de cinéma climatisées aujourd'hui. Alors à cette occasion, depuis ce matin, 5h, on vous demande quel est le jouet dont vous êtes le plus nostalgique. Et vous avez été très nombreux à nous répondre. Comme Rose Magie qui nous dit, à part mon vieux nounours rafistolé, je suis nostalgique des jouets de ma fille. Parce que j'ai énormément joué avec elle. Les Barbie, les Playmobil et autres poupées. Betty la Malice, elle nous a même envoyé la photo avec. Caro nous dit, moi j'ai retrouvé mes jouets en rangeant un grenier et ça a été l'occasion de voir mes enfants jouer avec sa luxiole, ses Popples et le kiki de tous les kikis. Elle adorait aussi Tricky Bill, c'est un jeu de billes, comme un petit parcours là. Alors elle dit, j'adorais ça quand j'étais enfant, mais devenue parent, je trouve ça beaucoup trop bruyant. C'est fou comme la perception change avec l'âge, effectivement. Et puis Jérémy nous dit Playmobil, mes petites voitures que j'adorais repeindre pour qu'elles ressemblent aux voitures des séries télé. Voilà.
Et Romain,
super message. Il nous dit « Hâte que mon fils soit assez grand pour lui sortir mes Lego, il me regardera jouer avec.
Merci
tous vos messages
beaucoup,
sur Twitter.
Axel de Tarlet qui s'est installé dans ce studio, un jouet favori quand vous étiez petit, Axel ?
Non, mais Buzz l'éclair, effectivement. Enfants qui sont fans de Toy Story. D'ailleurs, on va essayer d'aller voir.
Avec la grosse voix de Buzz l'éclair.
De l'univers et l'au-delà, là, je sais pas.
Vers l'infini et l'au-delà. Vous écoutez Debout les copains. Le 5-7 qui va vers l'infini et au-delà. Dans un instant, nos trois fantastiques, Mickaël Darmon, Axel de Tarlet et Eva Rock, nous y emmènent. Ils viennent nous parler succession chez les Républicains, surchauffe à cause des climatiseurs et fiction polémique sur France 2. A tout de suite sur Europe 1.
Très bon réveil à tous, il est 6h44. Et il est 6h45, l'essentiel de l'actualité, Théo Manval.
Les températures vont encore grimper. Aujourd'hui, la chaleur va gagner les régions de l'Ouest, jusqu'ici plus ou moins épargnées. 65 départements sont toujours placés en vigilance orange canicule par Météo France, qui prévoit 40 degrés et peut-être davantage dans le Limousin, le Périgord, les massifs, les vallées du Massif central et jusqu'aux portes de la Provence. Ce rapport parlementaire a été très attendu. Il porte sur la radicalisation dans les services publics et il apparaît que l'éducation et la sécurité sont peu touchées. La menace radicale est en revanche persistante dans les prisons, la santé ou les transports. On y revient dans le journal de 7h. Coup d'envoi des soldes d'été pour 6 semaines et jusqu'au 6 août, enjeu particulier pour les commerçants qui ont souffert pendant les 6 mois de mobilisation des gilets jaunes. Ils espèrent aussi que la canicule n'empêchera pas les clients de venir nombreux dans les magasins. Enfin, Coupe du monde féminine de foot. L'Italie se qualifie pour les quarts de finale en battant la Chine 2-0. Les Pays-Bas également in extremis après leur victoire 2-1 à la dernière minute face au Japon.
Europe 1, 5h, 7h, Théo Manval.
Il est 6h46, l'heure de retrouver comme promis nos trois fantastiques. Eva Rock pour la télé, Axel de Tarlet pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Théo.
On commence avec vous Mickaël. Les Républicains essaient de tourner la page de l'ère Wauquiez et le favori pour le remplacer est Christian Jacob, l'actuel président des députés, Les Républicains à l'Assemblée. Un vieil habitué, Mickaël, des tempêtes de la droite.
Ah oui, ces tempêtes, il les a toutes vécues ou presque depuis la déchirure entre Chiraquien et Balladurien, la guerre Sarko-Chirac, puis celle de Fillon-Copé, jusqu'à l'affaire Fillon avec l'explosion de la droite. Jacob, on est convaincu. À droite, l'union, c'est un combat permanent. Bon, bref, cette fois, c'est du sérieux. Il va quand même falloir que les Républicains, dit-il, apprennent la modestie. C'est pas comme si on était deuxième ou troisième. Cette fois, il faut vraiment être capable de reconnaître nos erreurs, confie Christian Jacob. Et son défi, eh bien, sera de reconstruire un corpus de droite, mais qui tienne compte également des évolutions de la société. Eh bien, le premier test, évidemment, sera le texte de la PMA à la rentrée. Si son premier réflexe est de dénoncer et d'accuser Macron, qui a une approche uniquement politicienne sur le sujet, eh bien, en même temps, il doit ménager, il le sait, une partie de l'électorat de la droite qui a beaucoup évolué sur la question. Désormais, Christian Jacob met en avant son passage au ministère de la Famille, même si à cette époque, effectivement, les politiques menées étaient assez loin des préoccupations d'aujourd'hui sur la filiation et le genre. Mais Jacob doit montrer également que le parti LR ne parlera pas que des sujets d'immigration et d'identité. Il sera maintenant élargi également aux questions qui touchent les Français dans leur vie.
Et autre terrain miné pour Christian Jacob, celui des municipales, avec les possibilités d'accords locaux avec le Rassemblement National.
Oui, parce qu'il est le dernier représentant de cette droite chiraco-sarkoziste qui a toujours refusé les accords et les alliances avec le FN, aujourd'hui RN. Jacob est persuadé qu'il ne sera, lui, jamais confronté à cette situation pourtant, parce que depuis des années, eh bien, il a une conviction. La droite républicaine reste solide. Les digues ne sont pas prêtes de céder, dit-il, sauf pour ceux qui sont frustrés du suffrage universel, et ils sont assez peu nombreux. Selon lui, les offensives du parti de Marine Le Pen ne l'impressionnent pas, et il est prêt d'ailleurs à faire une tournée dans le pays à la rencontre des militants, avant de laisser la place à l'été pour Nicolas Sarkozy, qui lui s'apprête aussi à faire le tour des plages avec son nouveau livre.
Passion.
D'ailleurs, Christian Jacob, absolument, Passion, qui sort aujourd'hui. Christian Jacob est d'ailleurs persuadé qu'il faut aussi tourner cette page et décerne à l'ancien président sa place de statut du commandeur. D'ailleurs, il a trouvé son propre rythme en ses relations avec l'ancien président. La dernière fois qu'il a déjeuné avec lui, c'était il y a 2 ans.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. L'économie avec vous, Axel de Tarlet. Axel, la canicule affole notre réseau électrique. RTE attend un pic de consommation demain jeudi à 12h30.
Voilà, RTE, c'est le réseau de transport électrique qui chaque jour fait des prévisions. Effectivement, le pic devrait être atteint demain à 12h30 avec une consommation en France de 58 000 mégawatts. En cause, bien sûr, la clim et les ventilateurs qui tourneront à plein régime demain à 12h30. Il faut savoir qu'un degré de température en plus par rapport aux moyennes de saison, c'est un demi réacteur nucléaire en plus de consommation. Donc là, en gros, on est 10 degrés en plus, donc ça fait 5 réacteurs en plus. Ah oui. Voilà. En gros, demain, la consommation d'électricité sera supérieure de 10% à la normale. Alors, la question est-ce que notre parc électrique va pouvoir produire ces 10% de consommation en plus ? La réponse est oui. Largement, il est complètement surdimensionné. Vous savez, notre parc électrique, il est équipé pour résister l'hiver où les consommations sont quasiment 2 fois supérieures parce que l'hiver, à 19h, il faut se chauffer et il faut éclairer tous les appartements et tous les bureaux. Donc on dépasse, il y a les pics d'hiver dépassent les 100 000 mégawatts. Mais la question qu'on commence à se poser en France et qui est totalement incroyable, c'est est-ce qu'on ne va pas tout doucement basculer vers ce qu'on appelle une consommation à l'espagnole ? Où les pics de consommation ne sont plus l'hiver quand il fait froid,
Mais l'été, quand il fait chaud en Espagne, les pics de consommation d'électricité, c'est exactement à cause des canicules. Et pourquoi on y va tout doucement vers cette consommation à l'espagnol ? Ben, vous l'avez tous remarqué, à chaque vague de chaleur, on s'équipe. Alors on commence par acheter
un ventilateur. C'est la ruée vers les climatiseurs.
Et,
oui.
Et ensuite, on s'achète un climatiseur. Un climatiseur, vous savez combien ça consomme énormément ? C'est 25 à 50 fois la consommation d'un frigidaire. Donc vous imaginez dans votre salon avoir 50 frigidaires qui marchent en même temps. Voilà ce que c'est que la clim. Alors pour l'instant, les Français sont très peu équipés en clim. Moins de 4% des particuliers. Dans les bureaux, on est tous équipés en clim. Moins de 4, mais dans les foyers, il n'y a que 4% des Français qui sont équipés en clim.
Et je pense qu'on n'est pas nombreux à savoir ça, hein, que ça fait 50 frigos à climatiseur dans son salon.
Mais alors aux États-Unis où tout est climatisé, même dans les logements.
Alors aux États-Unis, bah, c'est catastrophique. Vous avez par exemple l'été, la ville de Philadelphie, il y avait eu un pic de chaleur en 2011. Parce qu'à cause des États-Unis, 90% des foyers sont climatisés. Mm. Les trois quarts de la consommation d'électricité, c'était de la clim. Et alors là, on va tout droit vers la catastrophe. C'est que l'Inde, la Chine s'y mettent. Alors en Inde, vous n'avez aujourd'hui que 10% des foyers qui sont équipés. Mais si vous regardez à New Delhi, ça représente l'été 42% de la consommation d'électricité. Alors je termine juste pour dire, est-ce qu'on va vers la catastrophe ? Ben, si vous regardez la France, on a une petite chance. C'est que la nature est bien faite. Quand il fait très chaud, en général, il y a beaucoup de
soleil.
Le soleil. Et quand il y a du soleil, il y a un truc qui marche à plein régime et qui demain va représenter 10% de la consommation de la production française d'électricité, ce qui est énorme, parce que d'habitude c'est à peine 2%, ce sont l'énergie photovoltaïque. Donc peut-être que le photovoltaïque pourrait être une solution à cette surconsommation d'électricité due à la climatisation. Il n'empêche, tout cela est bien triste, on n'en est plus à comment lutter contre le réchauffement climatique, mais comment s'y adapter.
Merci beaucoup Axel de Tarlet. Et effectivement, ça fait flipper et ça nous refroidit de savoir que on a peut-être tous 50 frigos en train de tourner dans nos salons. Voilà. Comme chaque matin, on termine ce tour de table avec vous, Eva Rock. Eva, à la télé ce soir, vous ne nous recommandez pas vraiment la fiction de France 2 ce soir-là et les jours d'après.
Un petit peu compliqué, oui. Ce soir-là et les jours d'après, à 21h sur France 2, c'est une fiction qui, avant même son tournage, avait provoqué une polémique, car le film de Marion Lenne retrace la nuit du 13 novembre 2015 dans un immeuble qui est situé à proximité du Bataclan. Irène, une des habitantes, porte secours à des victimes de l'attentat qui sont réfugiées dans sa cour. Elle est aidée par un inconnu. Et quelques jours plus tard, tous se retrouvent dans un café.
Moi, je ne peux pas prendre le métro, là. Dès qu'il y a du monde, j'ai des crises d'angoisse.
Moi, ce qui m'angoisse, c'est la paperasse et les démarches. Avec une blessure, je vous raconte même pas. Hein. Et puis, comme en plus, on sait pas si je vais marcher, alors là, laisse tomber.
Là, j'ai vu qu'ils avaient fixé un barème pour l'indemnisation des rescapés.
Il paraît que c'est 2000 euros leur passé dans la fosse.
Ah bon ?
Ils appellent ça préjudice d'angoisse de mort imminente.
Ah bah ça, c'est exactement ce que je ressens quand tu conduis.
T'as vu comment tu conduis ?
Alors, comment vivre après une telle épreuve comme les attentats du Bataclan, victime ou témoin d'ailleurs, hein, à quoi ressemble le quotidien quand la violence s'immisce à ce point dans nos existences et quelles en sont les conséquences psychologiques ? Autant d'interrogations qui vont prendre corps à travers les différents personnages de cette fiction. Des questions existentielles auxquelles vient se mêler une romance entre Irène, donc la personne qui a sauvé et qui a secouru les victimes, et son bel inconnu d'origine afghane. Tous deux sont incarnés par Sandrine Bonner et Simon Abkarian, deux visions des événements.
Je voudrais savoir ce que tu ressens. Tu dis jamais rien.
Les morts, les blessés, le sang, la crasse, les explosions, les balles, moi j'y suis habitué.
Mais comment tu peux t'habituer à ça ?
Mais quand tu n'as pas le choix, tu t'habitues, c'est tout.
Moi je peux pas m'habituer à ça. Je peux pas !
Alors, les associations de victimes craignaient énormément cette fiction. Elles seront sans doute rassurées parce qu'il n'y a rien qui ne vient porter atteinte à la mémoire des personnes tuées ou blessées. Ça ne signifie pas que le téléfilm est réussi, malheureusement. En fait, la romance entre les deux héros, elle alourdit le récit, même si je loue la qualité des interprétations de Sandrine Bonner et Simon Abkarian. Ils ne sont pas du tout remis en cause. Mais je crois que... Enfin, voilà, ça ne fonctionne pas. Il y a deux histoires en une. Et puis, alors là, c'est à titre personnel, je crois que je n'avais pas du tout envie de replonger dans la réalité de ce 13 novembre. Même à travers une fiction. Alors, est-ce qu'il faut un délai entre les événements et une fiction ? Je ne sais pas. En même temps, je me dis qu'il faut en parler et que, je veux dire, le travail qu'on fait, par exemple,
voilà. Aussi, c'est pas
exactement. Et le travail qu'on fait, notamment les Américains en matière de cinéma sur la guerre du Vietnam, est magnifique. Nous, on n'a pas su le faire sur la guerre d'Algérie ou très peu. Donc, je pense qu'il faut savoir parler de ces événements d'actualité à travers des fictions. Mais voilà, je ne sais pas. Il y avait, en tout cas, moi, je n'avais pas envie de retourner dans cette réalité-là. Et puis, je vous dis, la romance ne fonctionne pas par rapport à la dramatique, à la dramaturgie en tout cas des événements du 13 novembre.
Il n'y a pas de tabou, il y a des ressentis, on laissera chacun se faire son idée. En tout cas, merci beaucoup Eva Rock, merci à vous, mes trois fantastiques. Très bonne journée à tous et on se retrouve demain.
Europe 1.
Il est 6h55, Théo Manval.
Debout les copains touchent à sa fin, mais comme dirait Mathieu Noël, le meilleur est à venir. Sébastien Krebs est à l'échauffement ce matin et il s'apprête à entrer en jeu. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h57, Théo Manval.
Debout les copains, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, en principe, vous retrouvez Mathieu Noël. Et principe. Comme l'équipe de France à la Coupe du Monde, Europe 1 fait tourner l'effectif ce matin, mais il y a de la ressource sur le banc des remplaçants. Bonjour Sébastien Krebs.
Bonjour Théo Manval, bonjour Eva Rock.
Bonjour Sébastien.
Ça va, le réveil n'a pas été trop compliqué.
Non,
on était à la fraîche.
On était à la fraîche, mais on était contents de se retrouver. Voilà. Et on vous laisse le studio en...
En bon état.
En bon
bien,
état.
Bien
oui,
régional.
Ça va. Vous avez vu, c'est propre.
Théo a rangé sa chambre.
Ouais. On vous laisse Céline aussi.
Ah oui, on vous laisse Céline.
Oui, alors ça, mais ça c'est très bien parce que moi je suis
bonjour,
entre de bonnes mains. Bonjour Céline Dacosta, Nikos. Donc c'est absenté aujourd'hui.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.